France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel et rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. La scolarité d'un enfant sur sept dans le monde perturbé par des événements météo extrêmes, c'est ce qui ressort d'un rapport publié ce matin. Nouvelle illustration donc du dérèglement climatique à l'œuvre. Donald Trump a promis d'expulser du sol américain des millions d'immigrés sans papier. Pourra-t-il tenir sa promesse? Nous serons à Chicago avec notre envoyé spécial. On se rendra également à Tel Aviv pour y parler des otages oublié de Gaza et puis l'actualité en France et notamment le tour de vis décidé par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau s'agissant de la régularisation des travailleurs sans papier. Comment se concentrer dans des classes qui n'offrent aucun répit face à la chaleur étouffante? Comment emprunter le chemin de l'école lorsque la route pour y parvenir n'existe plus que sous la forme d'un torrent de boue? Comment même recevoir un enseignement lorsque la salle du professeur a été soufflée par les vents? L'éducation est aujourd'hui l'un des services les plus fréquemment perturbés par les aléas climatiques. Ce matin encore, la seule pollution de l'air à Bangkok a contraint plus de 350 écoles à fermer. Sur l'ensemble de l'année 2024, les phénomènes météo extrêmes, canicules, inondations, typhons ont perturbé la scolarité de près de 250 millions d'élèves dans le monde. C'est ce qui ressort d'un rapport publié par l'UNICEF, sans compter que ce dérèglement environnemental ne menace pas en réalité uniquement l'apprentissage, puisqu'en réduisant la probabilité de rescolarisation des élèves, eh bien les fermetures d'écoles exposent aussi davantage les enfants au travail forcé et au mariage précoce. Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour.
C'est donc pas moins d'un enfant sur sept dans le monde qui aura vu l'an dernier, Sébastien, sa scolarité perturbée en raison d'un choc climatique.
Oui, au total, ce sont 242 millions d'élèves dans 85 pays qui ont vu l'an dernier leur scolarité perturbée par des phénomènes climatiques extrêmes, des écoles fermées en masse au Bangladesh, aux Philippines, des heures de cours en moins au Cambodge à cause de vagues de chaleur atteignant parfois les 47 degrés. Il y a aussi ces inondations qui détruisent des écoles, des routes en Afghanistan ou en Afrique, et les typhons comme Yoji l'an dernier qui a empêché à lui seul 118 millions d'enfants de se rendre à l'école en Asie du Sud-Est, de loin la région la plus touchée au monde. Les conséquences sont multiples. Infrastructures, fournitures scolaires détruites, manque de concentration des élèves et surtout des centaines de milliers de jeunes filles touchées de plein fouet par la déscolarisation et les mariages précoces. C'est tout le système éducatif en fait des pays les plus vulnérables qui est menacé, alors qu'il est déjà très fragile à cause du manque d'enseignants, des classes surchargées. L'UNICEF, dans cette étude, recense bien quelques solutions, des classes résilientes à la chaleur au Mozambique, des programmes de sensibilisation au climat en Inde, des initiatives toutefois encore très embryonnaires au regard des enjeux. Entre 2050 et 2059, 8 fois plus d'enfants seront exposés à des vagues de chaleur extrêmes.
Merci Sébastien Legénie. Et comme s'il fallait encore se convaincre de la prééminence aujourd'hui du changement climatique, notamment du réchauffement de l'atmosphère qui amplifie la force destructrice des tempêtes. Voilà que l'Irlande se retrouve aujourd'hui même en alerte rouge, balayée par des vents d'une force inédite avec un record historique de 183 km/h mesuré sur la côte ouest de l'île. Ce matin, 500 000 de foyers étaient privés d'électricité. La tempête Eowyn, c'est son nom, touche également la province britannique d'Irlande du Nord et devrait atteindre une partie de l'Écosse dans les prochaines heures.
En attendant, la réalité du changement climatique n'aura pas suffi pour l'heure à convaincre Donald Trump de l'urgence d'agir pour la planète.
Or, après avoir déjà annoncé en grande pompe, c'était lundi dernier, la sortie de son pays de l'accord de Paris, voilà que le 47e président des États-Unis a choisi pour son tout premier déplacement de se rendre aujourd'hui en Caroline du Nord et en Californie, deux États éprouvés justement par des catastrophes naturelles meurtrières et dont le milliardaire climato-sceptique a tenu à faire un sujet de bagarre politique à grand renfort de contre-vérité. Et face à cela, eh bien, c'est vrai que l'opposition démocrate peine encore à se faire entendre. Au-delà, ce sont même tous les contre-pouvoirs en réalité qui apparaissent extrêmement affaiblis. Pour autant, hier, un juge américain a tout de même réussi à suspendre temporairement la remise en cause du droit du sol ordonné là aussi par Donald Trump, signe que la résistance n'a peut-être pas totalement disparu. La nouvelle administration a bien entendu aussitôt fait appel de cette décision. Quoi qu'il en soit, ce premier revers donc vient interroger la faisabilité des promesses de campagne de Donald Trump. Les étrangers en situation irrégulière représentent environ 11 millions de personnes, c'est plus de 3% de la population et forcément se débarrasser d'eux ne sera pas sans doute aussi facile que ce qu'imagine le président président américain. C'est ce qu'a pu constater notre envoyé spécial à Chicago, Isabelle Labéry. Reportage.
D'abord parce que les réseaux locaux de défense des personnes en situation irrégulière sont nombreux et efficaces.
Je peux vous aider ?
Maison Eri, quartier mexicain de Chicago.
Tu demandes l'asile ?
José Luis accueille de jeunes sans papier.
Tu as déjà un avocat ?
Au niveau national, d'autres organisations se chargent, elles, du combat judiciaire. Plusieurs plaintes ont déjà été déposées pour faire tomber les décrets du 20 janvier. Difficile d'expulser massivement ces illégaux sans créer des pénuries de main-d'œuvre. Difficile aussi d'organiser leur transfert aérien, de construire des centres de rétention. André Vasquez préside la commission des droits des immigrés et des réfugiés à la mairie de Chicago. Pour lui, l'administration Trump n'a pas les moyens de ses ambitions.
Je pense pas qu'ils aient assez d'agents. Quand ils ont commencé à parler de Chicago, il y en avait 100 à 200. C'est pas beaucoup pour toute une ville. Donc ils doivent d'abord renforcer les effectifs. Ensuite, ils vont se heurter aux intérêts de tous ceux qui font du profit grâce aux immigrés. Si les hôtels font moins de chiffres, si les restaurants perdent des clients, si l'agriculture ou l'industrie est impactée, c'est un problème pour tout un tas de personnes qui sont aussi des électeurs. Donc ça va les inciter à ralentir. En fait, ils vont continuer à faire la même chose que sous Biden, sauf qu'ils vont en parler plus. Pour mobiliser leur base électorale.
Pendant son premier mandat, Donald Trump avait beaucoup parlé d'immigration et pourtant il avait expulsé moins d'étrangers que son prédécesseur, Barack Obama.
Un reportage à Chicago d'Isabelle Labéry. Appuyé par des avions, des drones, des blindés, des bulldozers, l'État hébreu poursuit sa vaste opération militaire en Cisjordanie occupée, morcelée par la colonisation israélienne. Hier, des centaines de Palestiniens du camp de réfugiés de Jenin ont commencé à fuir.
Et dans le même temps, et dans le cadre du cessez-le-feu, cette fois-ci à Gaza, 4 nouveaux otages du Hamas doivent être libérés demain.
En l'occurrence, 4 israéliennes au total. Et à la fin des 6 semaines de cette première phase de la trêve, donc, ce sont 33 hommes et femmes qui devront avoir été libérés du Hamas, dont tous d'ailleurs n'ont pas nécessairement été enlevés le 7 octobre 2023. C'est le cas en particulier de 2 hommes enlevés il y a maintenant plus de 10 ans. Ils figurent parmi ces otages du Hamas comme oubliés par Israël. Reportage à Tel Aviv de notre envoyé spécial William Delisseux.
Entre deux averses, place des otages, Mickey tient le stand de rubans jaunes et d'affiches. La volontaire nous montre celle avec le visage d'Avera Mengitsu.
On a trouvé son poster, si vous en voulez un. La légende en hébreu, là, à côté de lui, ça veut dire « ne me laissez pas de l'autre côté ».
Avera Mengitsu, éthiopien, 38 ans désormais, est entré dans la bande de Gaza à pied et de son plein gré en 2014. Il n'en est jamais revenu. Même scénario un an plus tard pour l'autre captif, Hicham Al-Sayed, aujourd'hui âgé de 35 ans, dont la photo est ici accrochée sur une tente. Tous deux sont décrits psychologiquement instables par leurs proches.
Je veux croire qu'ils reviendront à la maison. Aussi longtemps que la trêve tiendra, aucun n'a été oublié.
Et pourtant, rien ne s'est passé, déplore Tamar et Noam qui marchent sur cette place comme tous les jours.
C'est vrai qu'on a répété leurs noms, on a mené des actions, peut-être pas assez s'il a fallu attendre jusqu'à maintenant.
Je pense que le gouvernement a oublié, mais les gens non. Et c'est ce qui me donne de l'espoir. On veut que tout le monde revienne.
Que les deux hommes soient toujours captifs du Hamas révèle une impuissance au sommet de l'État, dénonce Gal.
Je pense que c'est ce qui arrive quand vous faites partie d'une minorité. L'un d'entre eux est éthiopien, l'autre est arabe. Ils n'ont pas eu l'attention qu'ils auraient dû avoir. Leur famille mérite leur retour le plus vite possible.
Rien n'assure que les deux hommes ne reviennent de Gaza vivants. En plus de 10 ans, seules quelques rares preuves de vie ont filtré.
Un reportage à Tel Aviv signé William Delesseux.
Midi et 38 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
C'est un virage à droite dans la politique d'immigration de la France, mais faut-il seulement s'en étonner de la part du très droitier ministre de l'Intérieur dans une circulaire de 3 pages adressée au préfet qu'il doit présenter aujourd'hui. Bruno Retailleau a choisi de faire la promotion d'un très net durcissement en matière de régularisation, une impulsion que le locataire de la place Beauvau justifie par la maîtrise des flux migratoires. Alors concrètement, le ministre ne réclame pas de changer à proprement parler les critères déjà existants dans la circulaire Valls pour obtenir une admission exceptionnelle au séjour pour motif familial ou économique. En revanche, il demande très clairement au préfet de serrer la vis. Mathieu Laurent a sollicité Serge Lamain, il est professeur de droit public à l'université Grenoble-Alpes, affilié à l'Institut Convergence et Migration.
Très clairement, la circulaire Valls était une circulaire très longue qui faisait plusieurs dizaines de pages et qui avait une grille d'indices très précise de critères de régularisation. Là, c'était une circulaire très courte, 3 pages. Elle répète sans arrêt que l'admission exceptionnelle au séjour doit être exceptionnelle et elle donne très peu de critères. Elle rappelle en fait plutôt le cadre légal et puis à un moment donné, juste, il a indiqué que 7 ans, c'est l'un des indices d'intégration permettant au préfet de décider de régulariser ou pas.
Disiez-vous il y a quelques instants, c'était une circulaire qui verrouille faute de canevas et qui risque d'avoir un impact certain sur les OQTF.
Oui, très clairement, ça vise à verrouiller en rendant vraiment totalement exceptionnelle la procédure d'admission exceptionnelle au séjour. Et en plus, il est très clairement mis au centre le critère d'ordre public et avec l'idée que si un étranger a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il ne pourra pas accéder à la procédure d'admission exceptionnelle au séjour pendant 3 ans parce que désormais, depuis la loi Darmanin, les OQTF produisent des effets pendant 3 ans. Et là aussi, c'est un verrou profond parce que c'était très fréquent d'avoir des personnes qui font l'objet d'une OQTF et qui, dans les 3 ans suivants, demandaient l'admission exceptionnelle au séjour. Et c'est des soupapes de sécurité, c'est-à-dire on a un droit des étrangers qui est totalement incompréhensible et totalement inapplicable. On a des préfectures qui sont des forts à la mot, quasiment inaccessibles aux étrangers. Essayez de prendre un rendez-vous en préfecture, vous verrez. Et on avait une soupape de sécurité qui était l'admission exceptionnelle au séjour qui permettait, bon an, mal an, de régulariser 20 000 à 30 000 étrangers par an. Et bien là, on verrouille aussi cette soupape. Donc, quand vous enlevez la soupape de sécurité d'un système, vous risquez l'explosion, hein, très clairement. Moi, je crains que ça tende encore plus les situations et ça développe encore plus de situations inhumaines.
Serge Slama, professeur de droit public à l'université Grenoble-Alpes, il répondait à Mathieu Laurent.
Il était, jusqu'à son arrestation en mars dernier au Maroc, le chef présumé du groupe Yoda.
Oui, soit l'un des 2 réseaux liés au narcotrafic marseillais et qui avait entraîné une sanglante guerre des gangs en 2023. Cette semaine, on a donc appris que Félix Le Chat, de son vrai nom Félix Bengui, qui avait été extradé par le Maroc vers la... France, et dans le même temps, un rappeur, Maël, dont le nom est cette fois-ci cité dans plusieurs affaires de règlement de compte sur fond de trafic de drogue à Paris, a lui aussi été interpellé à Casablanca. Alors faut-il déduire de ces 2 exemples, bien que très différents dans la nature des faits reprochés aux suspects, une certaine volonté malgré tout de la part du Maroc de donner des signes de coopération à l'égard de la France? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Michel Gandillon, expert associé au pôle sécurité défense du CNAM et co-auteur d'une géopolitique du crime organisé paru chez Erol en 2024. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Pourquoi le Maroc a-t-il accepté donc la demande d'extradition française d'un ressortissant binational, ou pour le dire autrement, pourquoi les autorités marocaines se montrent-elles conciliantes avec la France?
Bah écoutez, je crois qu'on peut pas faire abstraction du contexte actuel. Il ne vous a pas échappé qu'il y a un rapprochement diplomatique entre le Maroc et la France. Il y a eu la visite d'Emmanuel Macron en octobre dernier, et notamment la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Donc ça a bien arrangé la situation, hein, qui était marquée par 10 ans de dégradation, depuis 2014 à peu près, de dégradation des relations diplomatiques entre la France et le Maroc. Donc ça s'inscrit dans un contexte, disons, favorable.
Cette extradition de Félix Bengui, comme son arrestation donc à Casablanca en mars dernier, c'est l'illustration notamment de ce que les grands réseaux actuels du narcotrafic en France ne sont plus pilotés depuis le territoire national. Est-ce que c'est un fait nouveau ?
Non, c'est pas un fait nouveau. Ça fait déjà des années, des décennies d'ailleurs que les têtes de réseau sont déterritorialisées. Alors ils sont beaucoup en Espagne. Ils étaient beaucoup en Espagne parce qu'il faut savoir que l'Espagne est un lieu de transit de la résine de cannabis marocaine qui arrive en France. Donc beaucoup de trafiquants étaient implantés en Espagne et bien évidemment en Algérie, au Maroc et à Dubaï. Donc c'est une réalité qui existe déjà depuis très longtemps.
Est-ce que ce geste symbolique sur le plan diplomatique atteste aussi d'une vraie volonté du Maroc de s'attaquer à la réalité du trafic et en l'occurrence donc au flux de produits fabriqués au Maroc et dirigés vers l'Europe et notamment la France?
Écoutez, le Maroc est un des premiers producteurs mondiaux de résine de cannabis depuis déjà 30 à 40 ans. Très régulièrement, le Maroc essaye de donner des gages sur sa lutte contre la production de résine de cannabis, puisque le Maroc est signataire de conventions internationales qui prohibent la production de résine de cannabis. Mais en fait, c'est un écran de fumée, ce sont des gages qui sont donnés, mais dans la réalité, tous les chercheurs savent que la production de résine de cannabis est tolérée au Maroc pour un certain nombre de raisons, qui sont notamment le fait que cette production intervient dans la région du Rif, qui est une région très sensible pour le pouvoir marocain, parce que c'est depuis toujours un lieu de révolte et de contestation, et que la production de résine de cannabis contribue à la paix sociale en faisant vivre près de 800 000 personnes dans cette région.
Depuis quelques années, le Maroc cherche malgré tout à réorienter sa production de cannabis vers la construction d'une filière légale grâce au développement de ses usages thérapeutiques, mais aussi sa légalisation dans un nombre croissant de pays. Est-ce que cette orientation stratégique pourrait offrir une solution nouvelle à la problématique du narcotrafic ?
C'est difficile à dire. Moi, j'ai l'impression qu'on va assister à une sorte de cohabitation. Alors, effectivement, en 2021, le Parlement marocain à légaliser le cannabis à des fins thérapeutiques, pharmaceutiques et industrielles. Donc ils essayent clairement de développer une filière, mais pour le moment ça concerne sur les 800 000 personnes qui survivent grâce à la production de résine de cannabis, ça représente qu'une quantité infinitésimale de la population. Tout ça est en germe, donc ça ne saurait supprimer la nécessité vitale pour les populations du Rif de continuer à produire de la résine de cannabis.
C'est bien compris. Merci Michel Gandillon, donc expert, je le rappelle, associé au pôle sécurité défense du CNAM, d'avoir répondu à notre invitation ce midi. Et merci également à Louis Guérin pour la préparation.
Plus de 3 mois après son dépôt au Parlement, le projet de budget 2025 a enfin franchi l'étape du Sénat hier.
Oui, un premier pas pour le gouvernement Bayrou qui cherche malgré tout encore à négocier sa survie, en particulier avec les socialistes toujours très remontés, les concessions déjà accordées par le Premier ministre comme la renégociation de la réforme des retraites, mais aussi le renoncement aux suppressions de 4000 postes d'enseignants ou bien encore le recul sur l'extension des jours de carence des fonctionnaires ne semble pas suffire au parti à la rose, également sous la pression de ses partenaires à gauche. En attendant, les députés PS auront déjà eu l'occasion de faire montre de leur utilité et même de leur capacité à dégager des majorités. Hier, les 5 textes examinés lors de leur niche parlementaire ont tous été adoptés. Ce qui ne signifie pas d'ailleurs qu'ils survivront nécessairement aux étapes de la navette parlementaire. Sauf un, et il concerne l'hôpital. L'idée serait d'instaurer un ratio de soignants par patient hospitalisé pour améliorer évidemment leur prise en charge et donc aussi les conditions de travail des infirmiers et infirmières. Mathilde Cariou, bonjour.
Bonjour.
Alors ce dispositif existe déjà en réalité dans certains services en néonatologie et en obstétrique. Ça veut dire, Mathilde, qu'il s'agirait surtout ici de généraliser ce système au grand soulagement, on l'imagine, des syndicats de soignants.
Oui, c'est le strict minimum, estime Thierry Amourou, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers.
Les normes internationales, c'est 6 à 8 patients par infirmière. Et en France, on est plutôt au double, entre 10-15 patients par infirmière la journée et 15 à 30 patients par infirmière la nuit.
Et ces ratios, dit-il, vont sauver des vies car plus de soignants dans un service, c'est plus de temps et donc plus d'attention accordée à chaque patient. Cependant, pour y arriver, il faudrait embaucher 60 000 infirmiers plus 60 000 aides-soignants d'ici 2027. Impossible, estime Arnaud Robinet, président de la Fédération hospitalière de France.
Il n'y a pas assez de personnes formées, d'aides-soignants, d'infirmiers ou d'infirmières, pour mettre en place et garantir ces ratios.
Alors, un rapport de l'ADRES paru le mois dernier indique que le nombre de soignants formés est en hausse depuis 3 ans et qu'il pourrait encore augmenter de 220 000 d'ici 2050. Mais la disponibilité du personnel n'est pas le seul frein. Ces embauches entraîneraient un surcoût de 7 milliards d'euros pour l'hôpital, et ce, sans plan de financement prévu dans le texte.
À un moment où on va avoir un ONDAM qui va augmenter d'un milliard, si on prend en compte les cotisations retraite qui augmentent, etc., on est dans la capacité, malheureusement, de pouvoir recruter 60 000 infirmiers, 60 000 aides-soignants.
D'autant plus qu'en cas de non-respect de ce ratio, c'est la responsabilité de l'hôpital qui serait engagée, c'est-à-dire qu'il devrait compenser en allant chercher des soignants dans d'autres services. Le risque, conclut Arnaud Robinet, c'est de produire l'inverse de l'effet désiré, c'est-à-dire réduire la voilure, fermer des lits, voire des services entiers dans certains hôpitaux.
Merci Mathilde Cariou. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi ensoleillé au sud, couvert au nord et même humide sur tout le nord-ouest du pays. Quant aux températures, elles seront comprises entre 7 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Nicolas Ballu pour le prochain journal de la rédaction.